Bonjour, ici François Nardou de Montcuq dans le cadre de l'émission Un brin d'histoire et nous allons parler aujourd'hui, en ce début du signe du taureau, des rites, traditions, coutumes de printemps. Il est bien évident que ces traditions qui s'expriment à travers des dictons et proverbes ainsi que par des coutumes notamment, disons culinaire, s'étale sur beaucoup plus que la saison du printemps actuel. Elle commencerait, on peut dire, avec la chandeleur et durerait jusqu'au début mai. Et dans ces 3 ou 4 mois qui correspondent à l'ancien printemps celtique et au début de l'été des Gaulois, nos pseudo-ancêtres, toute la culture des pays d'Oc s'exprime à travers des proverbes quant au temps, à la météo, au temps qu'il va faire et au temps qu'il devrait faire en fonction des observations et des relevés de chacun tout au long des mois de la fin d'hiver et début de printemps. Alors, ces proverbes sont connus, certaines le sont beaucoup moins. Frédéric Mistral, dans sa Mireille, plus exactement, cite une observation, un dicton qui a trait au temps qu'il fait pendant les derniers jours et les premiers jours des mois suivants, entre la fin janvier et le début mai. Il appelle cela les jours de la vieille, l'Uitzurs de la Bielio. La Bielio, évidemment, comme on le sait à propos par exemple du ruisseau de Montcuq qui s'appelle la Nego Bielio, c'est la terre-mère, c'est l'ancienne déesse de la nature. Et Frédéric Mistral nous dit que dans la Provence de son temps, la tradition voulait qu'à la fin des mois qui scandent la fin de l'hiver et le début du printemps, se produise un redoux, suivi dans les jours qui suivent d'un retour de froid. Et on appelait cela les jours de la vieille, l'Uitzurs de la Bielio, vieille qui était riche de nombreux troupeaux dont elle perdait chaque fois des éléments. Elle commençait par perdre les vaches, les veaux, etc. Et elle se retrouvait début mai, elle n'avait plus rien. Or, c'est assez curieux parce que ça correspond exactement dans le calendrier que nous savons avoir été celui suivi par les druides, les anciens celtes, les gaulois. Ça correspond à la période qui était pour eux le printemps et qui allait depuis, en gros, notre fin janvier, début février, jusqu'à notre fin avril, début mai. Et qui était scandée par différentes fêtes. Alors, évidemment, le printemps celtique était sous le patronage d'une divinité féminine qui portait le nom de Brigitte, qui a donné le nom de Sainte Brigitte, sainte patronne du monastère de Kildare, en Irlande. La Brigitte celtique était célébrée pour une fête qui a ensuite donné naissance à notre chandeleur. Cette divinité régissait la période qui va jusqu'au début mai, où alors là, le relais était pris par une divinité masculine, le Bélénos, l'Apollon gaulois, qui était le maître de la médecine, de la magie, de la médecine par les plantes et par les enchantements, et qui était aussi le maître des sources solaires et guérisseuses. L'Apollon gaulois, Bélénos, est aux origines même de la figure de l'empereur à la barbe fleurie, et du roi soleil, qui est une figure mythologique qui ressurgit périodiquement dans toute l'histoire mythique, l'histoire sacrée de l'ancienne Gaule devenue royaume de France et Occident. La période donc qui va de début février jusqu'à début mai est connu pour les proverbes. Alors, les proverbes de février, je ne vais pas trop vous en parler, je crois que j'ai déjà dit à propos du temps que février est le dernier mois de l'hiver et un des premiers mois du printemps, dont la mythologie calendaire tourne autour de la floraison de l'amandier et de la croissance du jour, la fleur d'amandier étant une fleur de lumière, dont on retrouve l'expression figurée dans l'iconographie médiévale au tympan du porche nord de la cathédrale de Cahors, où le Christ apparaît en gloire dans une mandorle. La mandorle, c'est la mande ouverte. C'est ce qu'on appelle en hébreu laouz, qui a donné le terme losange. C'est, si vous voulez, c'est la fleur de lumière. Et cette mythologie du mois de février est assez intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre comment nos ancêtres voyaient le temps qu'il fait et le temps qui passe. Ça ne correspond, leur scansion du temps, les phases du temps calendaire ne correspondent pas du tout à nos mois solaires, ni même quelquefois à nos mois lunaires. Alors, le calendrier gaulois était un calendrier lunisolaire, dit-on, je dirais plutôt lunaire que solaire. Notre calendrier chrétien, qui est le calendrier romain, est un calendrier solaire. Et dans nos régions, le printemps commence, à propos en parler pour l'agriculture, avec le mois de mars et ses proverbes. L'un est très connu, je vais vous le citer, « Mars pulberus, abrial plexus, mai rusadu, tutis tres fan lupaces urus ». Je dirais plutôt « benastruc » que « urus ». Je ferai remarquer le S occitan, qui est un S emphatisé. C'est ni le S du français, ni le CH du français. C'est entre les deux, c'est un peu le S castillan. Quant au Z, c'est la même chose. Ça ressemble au ZJ du portugais. Juste une petite leçon d'occitan en passant. Alors donc, mars poudreux, avril pluvieux, mai riche en rosée, tous trois font le paysan heureux. Proverbe que je tiens d'une de mes anciennes voisines, originaire de Creissens, commune du Boulevé. Un autre proverbe est bien connu, c'est le mauvais temps de mars. Mars tu sten marsetso. Mars fait toujours le mauvais temps de mars. D'autres sont connus également. Quand pleu subre lui rampal, pleu subre lui boulan. Quand il pleut sur les rameaux, le dimanche des rameaux, il pleut sur la faucille, il pleut sur les moissons. Ce qui fait dire l'inverse. Quand il fait beau pour les rameaux, il fera certainement beau pour les moissons. Ce qui sera le cas certainement cette année. D'autant que on nous dit que l'ouben qui buffo subre lui rampals, buffo la tutto sant'annado. Le vent qui souffle sur les rameaux soufflera toute l'année. Or, le jour des rameaux cette année, nous avons eu un beau temps clair et sec, vent de nord-nord-ouest, donc nous aurons, ou peut-être nous devrions avoir, des moissons et un été très sec. L'autre proverbe moins connu, je vais essayer d'aller plus vite, c'est celui qui ne se confirme pas cette année. Da Pascos cap a San Juan, la pleccio ben d'Alleban. De Pâques à la Saint-Jean, la pluie vient du Levant, apportée par le vent d'Otan. Pour l'instant, on n'a pas trop l'impression. Et enfin, un dernier proverbe qui est beaucoup plus révélateur. Calque lu cucut, atso cantat pel prim d'abrial ou miliu renans. Il faut que le coucou ait chanté pour le 1er avril ou encore mieux auparavant. Alors là, c'est important parce que ce chant du coucou, qui est le signal du printemps, ça rentre dans les travaux et recherches d'un fameux historien et spécialiste de mythologie britannique, Robert Graves. Dans sa mythologie celtique, il nous développe une théorie selon laquelle le chant du coucou, l'arrivée du printemps, se plaçait dans le cadre de rites par lesquels une déesse mère, que nous appelons en Occitanie la Bielio, la vieille, s'assurait les services, pourrait-on dire, d'un chevalier servant, qui était le roi du printemps, mais qui était ensuite sacrifié rituellement pour le solstice d'été. Alors cette déesse mère du printemps, en Grèce, on la connaît sous le nom de Héra, c'est la vieille racine indo-européenne qui est à l'origine du grec Ea, le printemps, qui est l'aurore de l'année. Et c'est une mythologie qui va certainement imprégner toutes les vieilles mentalités et ressurgit sous la forme de ces proverbes qui ont trait à la saison printanière. En Quercyblanc, la saison mars-avril est marquée par deux phénomènes qui sont intéressants pour les jardiniers, lesquels peuvent être aussi des historiens. L'un n'empêche pas l'autre. C'est une chose que j'ai bien remarquée en vallée de Négueville, la floraison des pruneliers. Il s'avère que, semble-t-il du moins, la floraison des pruneliers au mois de mars puisse, certaines années, en fonction alors d'autres variables, se traduire par un possible retour de froid en plein printemps. En Angleterre, on appelle cela l'hiver du prunelier. Et alors, c'est justement intéressant, parce qu'en anglais, le prunelier, with horn, porte un nom qui pourrait être traduit en occitan par buisson blanc. Or, buisson blanc, en occitan, c'est le nom de l'aubépine, qui est en train de commencer de fleurir en cette fin d'avril, lorsque nous entrons dans le signe du taureau. Et André Carrière de Cairel me faisait remarquer une chose, que dans le vieux Quercyblanc, on considérait qu'une fois la floraison des aubépines passée, début mai, disparaissaient également les risques des dernières gelées blanches, las albieros en occitan. Et c'est là donc une période de l'année qui est marquée par, alors là on va entrer dans le vif du sujet, par des fêtes particulièrement importantes, outre la floraison des fèves qui se traduit par l'exubérance de la jeunesse, fèves fleuries, femmes en folie. Nous entrons avec le 21 avril dans le signe du taureau. Et ce 21 avril qui est aussi l'anniversaire de la fondation de Rome, chose oubliée dans la mémoire historique de nos jours, sauf pour les érudits locaux de Montcuq qui savent que le bourg et castel de Montcuq a été fondé le jour même et la date même du millénaire de Rome. C'est un fait très structurant à noter. C'est le 23 avril et les jours qui suivent, chacun des jours impairs. Nous entrons le 23 avril avec la Saint-Georges jusqu'au début mai et de jour impair, en sautant à saute-mouton, dans une période qui est celle marquée jadis par les rites et processions de cueillettes de rameaux verts et fleuris que l'on allait ramasser dans la nature pour en orner les maisons, les églises, les rues. Ces processions que l'on appelait des ramados, où on allait ramasser des ramos, c'est-à-dire des branches fleuries, portaient également le nom de mayados, c'est-à-dire les processions du mois de mai. Et cela commençait pour la Saint-Georges, le 23 avril, où, selon la tradition, tout doit être vert dans la nature. Du reste, on appelait Saint-Georges, Saint-Georges le vert. En occitan, Saint-Georges, ça se dit Sansordi. Le vert, ça se dirait l'Ouberte, tout simplement. Cette fête donc, est suivie par celle des cinq cavaliers. Alors, 23 avril, Saint-Georges. 25 avril, Saint-Marc. 27 avril, je crois que c'est Sainte-Trope. Puis nous on passait au 29 avril, alors je ne me souviens plus quel est le 5. Ça se terminait le 1er mai. Vous commencez une autre période qui durait jusqu'au 10 mai, qui était celle des 10 premiers jours de mai, alors qui sont connus dans la mythologie celtique, qui ont un écho dans la... Comment dirais-je, dans la religion de la France, l'Ancien Régime, à propos des rites autour de Saint-Mathurin de l'Archant. Ça n'intéresse pas beaucoup la région, sauf lorsqu'on sait que Saint-Mathurin de l'Archant a, dans le cimetière de Lozerte, en Quercy-Blanc, une chapelle et une source qui lui sont dédiées. Ces 10 premiers jours de mai, qui s'achevaient donc pour le 10 mai, étaient ceux qui finissaient de clôturer, enfin qui étaient ceux par lesquels on passait vraiment de la saison froide à la saison chaude. On y entrait pour le 8 mai, la Saint-Michel de printemps, mais c'était vraiment, c'est encore toujours vrai dans la région de production de vin de Cahors, où comme me disait un producteur sur le marché de Montcuq, on considère que passer le 10 mai, les risques de gelée ne sont plus à craindre. Alors, il faut quand même en revenir un peu à la mythologie de Saint-Georges. Pourquoi ? Parce que c'est un peu intéressant pour le reste de l'exposé. Saint-Georges, que l'on appelle le vert, porte en grec un nom qui veut dire l'agriculteur, celui qui travaille la terre, mais qui travaille la terre-mère. C'est un saint cavalier, vainqueur du dragon des marécages. Il est figuré tenant la sainte lance, celle qui a transpercé le flanc du Christ sur la croix le vendredi saint. Sainte lance qui était conservée à Antioche dans une basilique dédiée à Saint-Georges, et Sainte Lance qui a permis à Raymond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse et de Quercy, seigneur de Montcuq, organisateur et fondateur du bourg de Montcuq vers 1100 ou un peu avant, parce qu'en 1100, il était en Terre Sainte. Sainte Lance qui a permis à Raymond IV de Saint-Gilles de s'emparer de Jérusalem le 15 juillet 1099. C'est donc un talisman de victoire. Il faut savoir que dans la noblesse du pays de Montcuq, les descendants en ligne cadette de Raymond IV de Saint-Gilles tenaient Saint-Pantaléon et l'Ascabane dont l'église est vouée à Saint-Georges. Qu'il y a dans le vieux Montcuq une rue qui s'appelle la Carriero dell'Asto, or la Asto en occitan c'est la lance. On est donc là dans une insertion de la mythologie de Saint-Georges dans le Quercy-Blanc, qui est particulièrement sensible. Saint-Georges est appelé le vert, exactement comme un personnage de la mythologie musulmane, assimilé d'une part à Saint-Georges certes, mais aussi à Saint-Élie, au prophète Élie du Mont Carmel. Ce qui nous amène vers les rites de pluie en pleine sécheresse estivale, avec Saint-Élie fêté encore le 16 juillet, comme Saint-Jean-Baptiste l'est le 24 juin, dans le calendrier julien, romain-julien, datant de Jules César, qui est encore suivi par les Berbères d'Afrique du Nord, qui continuent de vouer un culte au prophète Jean, Nabi Yahya, fêté le 24 juin dans leur calendrier julien, qui est en retard de 11 jours par rapport au nôtre, et Nabi Elia, c'est-à-dire le prophète Élie, fêté le 16 juillet. Alors, à travers ces saints protecteurs et donneurs de pluie, on voit que la saison de fin avril, début mai, est donc une saison qui gouverne le temps de l'année. Or, il se trouve qu'assez curieusement, en Quercy-Blanc, ça se traduit par des rites, des traditions, des coutumes, de cueillettes, de plantes sauvages, par ailleurs souvent toxiques, mais considérées comme comestibles pour certaines de leurs parties. C'est un retour cyclique, chaque printemps, vers la nature, en sa première verte et jeune nouveauté, qu'effectuent les habitants du pays à propos de la cueillette de ces jeunes pousses de plantes sauvages, qui sont des plantes herbacées amères, le but étant de dépurer l'organisme, le corps, de ses humeurs, accumulées pendant l'hiver et désormais en excès. Enfin, elles sont excessives, si vous voulez. On entre là dans la théorie médicale et cosmologique des humeurs et des signes, selon laquelle la santé est obtenue par un équilibre entre les humeurs corporelles et les éléments constituant la nature. C'est là une médecine magique et alchimique de transmutation de la matière. Et c'est donc cette médecine magique et alchimique que je vais aborder maintenant à propos des herbes amères, des herbes d'amaros sabus, que sont les asperges sauvages et le tamier commun, autrement dit les respuntus.
Sen van sus la prado, ta seman amusar. Que a una vez pastor, bendit nunia pas guaire, diu quin beciaire, quen charma las quivu, se giu sabi deu pla. Tos amis, tos otos, non finirai a me. Non iapas nat camin, che non hai attraverso. Diu quin comerso, la vita resai mar, per un momento. Febreso sin scarie.
Alors, vous êtes toujours en compagnie de François Nardoux sur Antenne Doc, dans le cadre d'un brin d'histoire, et nous allons donc parler à présent de ces herbes d'amaros sabus, ces herbes aux amères saveurs, qui sont l'objet de consommations saisonnières de printemps, et qui sont plus que des consommations saisonnières, on pourrait dire des rites traditionnel de printemps. Alors ça concerne surtout, toujours des herbes amères, alors je ne vous parlerai pas du pissenlit, de la lierre ou du poireau sauvage, mais surtout des asperges sauvages qui colonisent le Quercy blanc dans les stations les plus chaudes et les plus sèches, notamment au sud de Montcuq, mais même dans tout le Quercy blanc. Plante du cortège floristique du pistachier térébenthe avec les filires, les rames ou salaternes, les érables de Montpellier, les lauriers, les romarins, les sauges. Et ensuite, une plante très à la mode, mais qui est moins goûtée des quercinois, des carcinols, qui est le tamier commun, dont les jeunes pousses sont plus connues sous le nom de respuntus. Respuntus n'étant pas le nom du tamier lui-même, mais le nom de ses jeunes pousses. Alors, le tamier commun est une plante de la famille des Dioscoréacées. C'est la seule Dioscoréacée présente en Europe. Les autres sont des plantes très communes dans l'Asie des moussons et dans les zones intertropicales, à saison fraîche, sèche et à saison chaude, très humide. Le tamier commun, Tamus communis en latin, surtout connu pour ses jeunes pousses, les respuntus, c'est-à-dire les repointes, ceux qui repoussent littéralement. C'est une plante de l'Europe tempérée, atlantique. Elle appartient alors non pas au cortège floristique méditerranéen, comme l'asperge sauvage, du Quercy blanc, mais à celui du chêne, du frêne, du noisetier avec l'arôme tacheté. Les cueillettes des deux s'effectuent en fin mars, début avril, vers Pâques en 2021, et ça a été l'occasion, lors de mes randos à vélo, de rencontrer dans la Combe des Rousettes, de nos jours Combe de Fontauda, Cairel et Roland, des carcinols du Pays Bas, de Montauban et Bruniquel, qui, paraît-il, viennent tous les ans à un véritable pèlerinage de cueillettes dans cette combe de Fontauda pour se fournir en respuntus. C'est pour eux un véritable besoin, irrépressible et incoercible, que cette cueillette qui les amène à faire plus de 50 km pour venir à Montcuq cueillir des respuntus. Est-ce que les respuntus du Quercy blanc et de Montcuq sont supérieurs à ceux d'autres régions? Je n'en sais rien. Bon, les quercinois, les carcinols, préfèrent 100 fois les asperges sauvages, les vrais. Méditerranéenne, que j'ai bien connue dans le Mont Pélirin et le Carcassès, où elles sont l'objet de cueillettes de printemps. Ici, dans le pays, me disait Louis Vignol des grottes de Roland, quand il était enfant, sa grand-mère certes ramassait des respuntus, les cuisinait à sa façon, mais elle trouvait que c'était bien moins bon que les asperges sauvages. Dans le pays, me disait-il, dans les années 50, on laissait les respuntus aux gens qui n'y connaissaient rien, on préférait les asperges sauvages. Alors, la tradition de cette cueillette est connu dans le sud-ouest, les pays garonnais, à partir du foyer que sont l'Albigeois ou le sud du Rouergue. Elle s'est étendue vers le sud du Quercy jusqu'à la Genêt. Elle fleurit même de nos jours dans tout le sud-ouest intérieur. Et la tradition de cette cueillette, d'un début à première vue alimentaire, est propre au bassin aquitain. Elle est inconnue en dehors de là, alors que le tamier commun est connu jusque dans l'Europe rhénane. Au nord, dans le Limousin et plus au nord, on ne la connaît pas. On connaît certes les vertus médicinales du tamier commun, mais on ignore ses utilisations culinaires. Alors dans nos régions, si vous voulez, on connaît bien le Rispunzus pour ses capacités d'utilisation en cure de printemps, mais on ne connaît guère les vertus médicinales du tamier commun, ou on les ignore. On sait, j'ai l'impression, pour avoir parlé avec les gens qui se livraient à des cueillettes, ils connaissent la toxicité du tamier commun. Bon, ils savent très bien qu'il faut faire attention à ne pas utiliser ni le tubercule, ni les baies, ni les fleurs, ni les rameaux développés. Mais une personne m'a appris une chose assez curieuse. Elle a connu dans le Berry, son pays d'origine, où on sait que le tamier commun est toxique, mais on ne l'utilise aucunement. Elle a connu des gens venus de l'Asie des moussons et qui, au printemps, cueillaient les jeunes pousses de tamier commun pour les utiliser comme le font les gens de l'Albigeois, du sud du Rouergue, les Quercinois et les Agenais, les gens du bassin aquitain. Alors ça pose un problème quant à l'origine de la tradition. On sait par Pline le Jeune qui a été gouverneur d'une province d'Asie mineure autour de la ville actuelle d'Ankara. C'était un pays peuplé par des Galates, autrement dit par des Celtes, puisque Galate veut dire la même chose que Gaulois. Et Pline nous dit qu'un médecin grec de son temps, ou plus ancien, un certain Dioclès, qui n'est pas Dioscoride, avait mis en valeur les vertus alimentaires ou comestibles, disons, des jeunes pousses de tamier commun que, dans la région où vivait ce Dioclès, donc probablement un médecin portant un nom grec, mais chez les Galates d'Asie mineure, chez les Celtes d'Asie mineure, autour d'Angara, que probablement ces Celtes consommaient au printemps comme des asperges. Nous savons par Pline que les anciens attribuaient au tamier commun des vertus thérapeutiques, qui ne sont plus du tout reconnus de nos jours, qui ne sont plus même mis en valeur ni utilisés, et les anciens, semble-t-il, ignoraient totalement la toxicité du tamier commun, dont ils ne tenaient pas compte. Ils l'utilisaient alors, entre autres choses, et c'est assez curieux, pour faire sortir les échardes. Nous, dans nos régions, du moins enfin, en Europe moderne, on utilise le tamier commun comme caustique pour provoquer un effet rubéfiant, comme antalgique contre les douleurs articulaires. Les anciens, semble-t-il, ne connaissaient pas cette propriété. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que nos régions du Quercy, sont vers le nord les régions les plus septentrionales où l'on rencontre à la fois l'asperge sauvage comme plante objet de récolte de printemps et le tamier commun. Plus au nord, on ne rencontre que le tamier commun, on ne rencontre plus l'asperge sauvage. Le Quercy, je vous le disais, préfère 100 fois l'asperge, mais depuis quelque temps se met à la récolte printanière de tamier commun. Alors la tradition veut que le tamier commun, bon les jeunes pousses, se récoltent donc au printemps. Et alors voilà ce qu'on m'a raconté et qui me paraissait encore digne d'être noté. Si en Quercy blanc on le tient pour une herbe peu savoureuse, et si on le laisse avec un mépris marqué aux amateurs, il jouit d'une réputation chez les amateurs d'une herbe dépurative de printemps. C'est-à-dire une plante médicinale qui débarrasse l'organisme de toutes les substances qu'il a accumulées en excès par la faveur de l'alimentation et du mode de vie hivernal. On rétablit l'équilibre du corps et de la nature troublé par l'excès et l'accumulation de certaines substances, qu'on appelait des humeurs, et qui peuvent déterminer des états pathologiques au printemps. On rétablit la santé, donc l'équilibre, en se délivrant, en s'épurant, en se purifiant, en se débarrassant de toutes ces substances en excès. Le premier critère qui détermine chez les populations anciennes les vertus dépuratives d'une plante, c'est son goût, son amertume. C'est aussi sa couleur, le vert. Au fond, le tamier commun, c'est la plante verte et amère. La chose qui est curieuse, qui est à retenir, c'est que, selon les dires des amateurs les plus convaincus de l'utilité et de la nécessité de ces cures dépuratives grâce au Rispunzus, c'est qu'il faut prendre celui-ci par cure de 3 fois 3 jours en 3 semaines, après avoir fait passer les fameux Rispunzus dans 3 eaux bouillantes salées successives, On détoxifie la plante de tous les éléments toxiques qu'elle contient par une lixivation. On connaît ça pour d'autres plantes toxiques. Après ce qu'on m'a dit, il convient de consommer le responsus le jour même de la cueillette. Il ne faut pas le garder. Il ne faut pas le conserver parce que, semble-t-il, la conservation produit peut-être des effets, une mutation dans la chimie de la plante qui se produit et qui la rend inutilisable par toxicité. Au fond, le vieillissement concentrerait la plante en substances toxiques. Ça rejoint en partie ce que nous disent de la période de récolte les troubadours médiévaux sur les rites de printemps dans nos régions, qui feraient donc de la cueillette du responsus un élément de la culture médiévale, des milieux où est né le catharisme, noblesse et clergé. Mais on s'aperçoit que de nos jours, c'est une coutume populaire, paysanne, même si elle est le fait de citadins qui sont aux racines rurales très récentes. C'est au Moyen-Âge une coutume de la période de soudure entre récoltes. L'épuisement des réserves de céréales et de fruits secs de l'été précédent et en attendant l'apport des nouvelles moissons. C'est des poèmes médiévaux nous font part de ce qu'était alors les périodes de disette avec le renchérissement des produits dû à la rarification des produits de consommation. Alors, est-ce que c'est là un héritage culturel qui nous vient de la préhistoire ou du Moyen-Âge ? Il y a un apport de la médecine antique qui est certain, mais médecine antique chez les Galates d'Asie mineure, donc chez les Celtes. Il se pourrait donc qu'on ait là une tradition propre à nos régions d'Occident, entre le Rhin, les Pyrénées, même au-delà, peut-être même aussi à l'Italie du Nord.
Va qui l'opuli mes de mai, que tu galam plantos mai, nem plantarai in ama mio. Sera mai aut che sa teu liso, que li metrem per lunga dai, su da decado custa, que li metrem sentinello sera luga l'andela bello a come faccia e per te sieta mio la vieo voglio ta mio nei mo cauchisa o tre se te farà bene nous entre. Eu sabe bem, só que farai, men anarai, men marcarai, drecha marcio. Pensarai plus d'aquesto fio, cande marcio revenai, d'avanza porto passarai. Me mandarai a Savesino, come se porta Catarino. Catarino se porto ben, se smarida di abeluntem, amemo se della campagna, che le fai ben paire la nem porto luca peu guda, me lez passa sun custa, la novirai mai seren paire, che non pate mari cantare.
Alors dans cette troisième partie, on va voir maintenant un peu ce que sont les milieux, l'écologie, les mythes, les traditions du tamier commun et si possible des asperges sauvages. Alors ce dont je me suis aperçu, c'est que si les asperges sauvages sont rares au nord de Montcuq, elles sont très abondantes au sud, sur l'Écosse entre Montcuq et Rouillac. Il y a des milieux différents, avec un cortège floristique d'accompagnement qui est aussi différent, mais c'est assez curieux parce que je vois qu'en vallée de Séoun et Écosse environnant, on rencontre de nombreuses plantes qui exigent des hivers doux et des étés chauds et secs, comme les asphodèles de Palestine, les ailes sauvages originaires d'Asie centrale, les figuiers de Barbarie, Inversement, on rencontre là, comme dans les régions plus, dans les stations beaucoup plus chaudes et plus sèches sur les côtes au sud de Montcuq, des plantes de l'Europe du Nord, la mercuriale pérenne, dans les endroits où le soleil ne pénètre pas pendant l'hiver. On a là donc des milieux très différents. Asperges sauvages, milieu méditerranéen, tamier commun, milieu de l'Europe tempérée. Milieu très contrasté, avec une faune particulière, marquée dans les régions à asperges sauvages, mais aussi à responsus, par la présence de lézards verts. On est donc là dans un milieu particulier qui amène à se poser la question de voir quel peut être le cadre à la fois géographique, naturel et culturel où se développent les cueillettes d'asperges sauvages et de responsus. Alors pour parler plus exactement du tamier commun, je me suis interrogé sur l'étymologie du nom. Alors en grec, c'est assez curieux, parce qu'il porte un nom qui en fait soit une herbe du bouc, or le bouc est souvent assimilé au diable, soit une herbe du centaure Chiron, le mentor d'Achille dans l'Iliade, soit une herbe pour les maladies des femmes, ce qui est un peu le cas dans la médecine grecque ancienne. Alors, le terme de tamier commun vient du grec taminos, qui est passé en latin par l'étrusque à la forme tamnus, puis au latin classique tamus. Or, c'est très curieux parce que le grec taminos désigne une grappe de raisin, le raisin sauvage. Or, le tamier a pour nom vulgaire en français raisin du diable. Le terme lui-même de raisin vient du latin, à travers l'occitan, racine, vient du latin racimus, qui vient de racemus, qui désigne la grappe de raisin, lequel a remplacé le latin uva. On aurait donc là, si vous voulez, à travers l'étymologie grecque du nom du tamier, une référence au raisin, mais à un raisin du diable, un raisin dangereux, un raisin démoniaque. En gaulois, le grec taminos ressemble phonétiquement, mais phonétiquement seulement, au gaulois tamnos ou tannos, qui désigne un arbre toujours vert. Le tamier commun serait donc, si vous voulez, en gaulois, le toujours vert. Donc l'herbe de Saint-Georges, qui lui-même est le vert. Saint-Georges le vert, cavalier triomphant du dragon des marécages, lieu des fèvres et des pestilences. Or, notre Saint-Georges le vert, comme notre tamier toujours vert, ont une particularité, c'est qu'ils s'insèrent en quercyblant dans l'histoire sacrée locale. Saint-Georges, le saint patron de la Scabane, le tamier toujours vert, lui, a une particularité relevée par tous les observateurs, c'est qu'il évolue en spirales ascendantes. Il convolvule vers le haut, mais en sens inverse des aiguilles d'une montre. Il suit un svastika inverse, donc négatif, maléfique. Or, c'est précisément cette ascension en sens inverse de la course diurne du soleil est précisément celle que suit le serpent tentateur de la fresque du péché originel à Rouillac. Il monte vers le haut et vers Ève en suivant une ligne sinusoïdale ascendante inverse à celle de la course du soleil dans le ciel. Alors, en mythologie, ça signifie un retour vers les origines, mais ça a aussi une valeur négative, une valeur maléfique. Or, ce serpent des fresques de Rouillac, le peintre s'est servi comme modèle du lézard vert des côtes de Rouillac. Il a donc là, si vous voulez, une assimilation qui est faite entre celui-ci et le tamier commun. Le tamier commun serait, dans le monde végétal, ce qu'est le serpent tentateur de la Genèse, dans le monde de l'iconographie romane et de la vision de la nature que pouvaient avoir nos ancêtres médiévaux. Ça expliquerait peut-être un certain tabou, un certain interdit sur la consommation des responsus. Au fond, consommer des responsus pour les gens du Quercyblanc, du pays de Montcuq, ce serait assimiler, ingérer, consommer, prendre possession et connaissance, à travers le tamier commun assimilé au raisin du diable, des principes manifestés par le serpent de la Genèse. On serait là, en quelque sorte, dans une répulsion pour le principe du mal que le serpent de la Genèse manifeste. Serpent de la Genèse qui est assimilé par les cathares du reste au dieu créateur, à Yahvé Elohim. On aurait donc là, si vous voulez, un écho à la fois peut-être d'une influence cathare et en même temps d'une vieille connaissance et perception de la nature sauvage au printemps où l'on verrait dans ce serpent tentateur qui serait la manifestation du principe du mal, dont l'équivalent serait le tamier commun. On aurait donc là une vision de la mythologie, de la mythothéologie de nos ancêtres médiévaux quant à l'animation de la nature par des principes opposés, principe du bien, principe du mal. Alors ceci est assez curieux parce que ça ne se vérifierait guère qu'en Pays de Montcuq, qu'en Quercy-Blanc, donc, à travers l'analyse des fresques de Rouillac et la connaissance de la végétation des environs. Et ça amènerait à voir, enfin, c'est mon opinion à propos du site de Rouillac, parce qu'il est très riche en sources donneuses de pluie, dont je vous disais tout à l'heure qu'elles étaient souvent sous le patronage du Bélénos Apollon gaulois, aux origines même de la figure de l'empereur à la barbe fleurie et du roi soleil. Ça fait de ces sources des résurgences du flux de l'énergie universelle. Or, ce flux de l'énergie universelle, ce serpent des origines, de la scène du péché originel aux fresques de Rouillac, c'est aussi celui, le serpent ondulant, que l'on voit sculpté dans le cœur de Saint-Aignan de Rouzé. On aurait donc là, si vous voulez, à travers les restes, des vestiges, des rites et cultes, des sources béléniques, des sources de Bélénos, qu'est-ce que c'était? Au fond, ça veut dire que c'était une tradition rituelle de printemps, par laquelle nos populations du Sud-Ouest entrer en contact avec la nature, se régénérer par le contact direct avec la nature, par l'ingestion des forces, des virtualités contenues dans la nature. Et à travers cette communion avec la nature, les populations, outre la régénérescence des forces affaiblies par l'hiver, par l'alimentation et le mode de vie hivernal, les populations effectuaient des rites qui se manifestaient dans nos régions par les cueillettes saisonnières cycliques rituels de printemps qui étaient celles du tamier commun, dans nos régions peut-être de l'asperge sauvage. Et s'il y a en Quercy-Blanc une répulsion pour le tamier commun et une préférence pour l'asperge sauvage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tamier commun était peut-être le signe, la manifestation de l'appartenance, de l'adhésion à des rites néo-païens ou païens, en voie d'oubli et combattu par l'Église, et que celle-ci est parvenue à faire disparaître, mais qui ont subsisté sous la forme de coutumes, de culinaires, de printemps, et qui ont trouvé le soutien de la médecine ancienne, puisque ces herbes, à travers leur biochimie, telle que nous la comprenons de nos jours, contribuent à débarrasser l'organisme de toutes ces humeurs en excès qui troublent la santé et amènent des maladies de changement de saison. Au fond, à travers le responsus, on rendait au corps sa verte et jeune nouveauté, celle de la nature au printemps. Voilà donc aujourd'hui ce que j'ai essayé de vous transmettre sur les responsus, le tamier commun, et les asperges sauvages, qui ont ma préférence. Nous nous reverrons une fois prochaine sur un tout autre sujet, évidemment, qui sera peut-être quelque chose en rapport avec le mois de mai. Voilà, donc à une autre fois, au revoir. Et comme on dit toujours en occitan, tengash buskran, tenez-vous bien.
Yes, I see lumes de mai, yes, I see lumes de mai. Girum flamiro la lila, car un va ser camillo. Girum flamiro la lila, car un va ser camillo. Yeah, man,